Si vous voulez vous tourner dans Hébreux, on va continuer l'étude. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 4. Levons-nous pour la lecture de la parole ce matin. On va lire debout ensemble. À partir du verset 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Prions. Seigneur, merci pour cette parole, merci pour ta parole, merci pour ce livre qui est vivante, cette parole qui est puissante et que tu veux utiliser pour nous toucher, pour nous parler, Seigneur, pour nous garder dans ton repos. Aide-nous à comprendre ce matin ce texte et à entendre ce que tu as à nous dire avec foi, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour rappeler, pour se remettre dans le contexte, encore une fois, on est dans l'étude du livre de la lettre aux Hébreux. C'était écrit à des croyants hébraïques, des croyants, on pourrait dire des juifs messianiques aujourd'hui, qui on pense habiter soit à Rome, soit à Jérusalem. La lettre a longtemps été attribuée par l'Église du premier siècle à Paul. Il y a des débats par rapport à ça, et il ne parle pas de lui-même explicitement dans le texte, donc on n'est pas sûr, et c'est des débats pour les théologiens. Mais nous savons que cette lettre a été écrite donc à des croyants juifs, et c'est un livre qui est souvent un peu difficile à comprendre, pour nous, parce que nous ne sommes pas des juifs de cette époque-là, tout simplement. Nous n'avons pas les connaissances implicites, les choses que eux comprenaient très facilement parce que c'était leur culture de l'époque, et que nous, c'est pas notre culture, c'est pas des choses qu'on comprend de manière très facile. C'est un petit peu comme si vous écriviez une lettre aujourd'hui à quelqu'un en parlant de la politique, de comment la France est organisée avec la gestion des institutions ou quelque chose comme ça, que vous parliez de Sarkozy, du Sénat, des juges, etc. Vous expliquez des choses que nous, peut-être, on comprend parce qu'on est dedans. Mais quelqu'un dans 2000 ans, quand la France est loin derrière nous, ne comprendrait pas. Donc c'est simplement ça, et quand on lit, il y a bien des choses, et on va le voir dans ce texte, on l'a déjà vu dans les textes qu'on a regardés, il y a des références, des citations faites à des passages dans l'Ancien Testament, comme si c'était acquis. Voilà, vous savez ça, hein. Donc la conclusion, c'est ça, et c'est des choses qu'ils comprenaient tous. Les Juifs, pour eux, l'Ancien Testament saturait complètement leur culture. Ils connaissaient beaucoup des textes par cœur, ils avaient des fêtes pendant l'année où ils chantaient les psaumes par cœur, où ils chantaient les textes qui sont cités. Ce sont des choses un peu comme si nous, à Noël, on se retrouve et on connaît des chants de Noël. Vous connaissez des chants de Noël ? Eux connaissaient les psaumes par cœur. Et donc, quand ces psaumes sont cités, on a vu la semaine dernière des citations des psaumes et les semaines avant, et on va en voir aujourd'hui. Eux, c'était des textes qu'ils connaissaient par cœur, qui leur parlaient. Et pour arriver à comprendre le texte, il faut donc passer du temps à comprendre la culture dans laquelle ils étaient. Et ça demande parfois un petit peu de travail. Alors, cette épître était écrite à des croyants juifs, et Pierre l'a déjà mentionné, je le rappelle. Ils étaient découragés et ils étaient dans la difficulté parce qu'il y avait de la persécution. On sait qu'à Rome, il y a eu une grande persécution à partir des années 64-65 par l'empereur Néron contre les chrétiens. On voit dans le Nouveau Testament même que les croyants juifs à Jérusalem étaient très pauvres, étaient persécutés par leurs frères, étaient persécutés par l'Empire romain. Et ils étaient découragés et ils avaient cette tentation de se dire on va peut-être finalement retourner à la foi juive parce que c'était une foi qui était acceptée dans l'Empire romain qui était un peu une manière pour eux d'éviter tous ces problèmes, d'éviter les choses qui les décourageaient, à savoir la persécution, l'opposition, les difficultés qu'ils enduraient. Et c'était la solution, on va dire, de facilité. Et ça nous donne le contexte du livre. Et alors, on a vu que le livre parle de Jésus, présente Jésus comme étant supérieur à toutes les choses dans la. Alors, on va en voir dans les semaines à venir encore. Mais on a vu que Jésus était présenté comme supérieur aux anges, supérieur à Moïse. Et plusieurs exhortations à dire ne laissez pas tomber, ne retournez pas à ce qui était dans la foi juive, n'allez pas en arrière, ne vous laissez pas détourner, restez concentrés sur Jésus, considérez-le, n'endurcissez pas vos cœurs, ne soyez pas incrédules, n'ayez pas un manque de foi, même si c'est difficile et même si vous êtes découragés. Et il présente ce qu'on a vu la semaine dernière, le récit dans l'Ancien Testament à propos du peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui arrive au désert, qui traverse le désert, qui arrive à la porte de la terre promise et puis qui dit finalement non merci, Dieu ça va et on a vu tout le texte la semaine dernière et c'est à ce moment-là que nous on entre dans le texte ici. Au verset 1, « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » Et donc, le mot « redouter » devrait nous faire faire attention, devrait nous faire réagir, nous dire « Ok, il y a quelque chose ici qu'il faut qu'on regarde, on doit redouter quelque chose. » Si quelqu'un vous dit de redouter quelque chose, vous vous dites « Ok, je vais faire attention. Ayez de la crainte par rapport à ça ou méfiez-vous. » Et l'idée, la promesse d'entrer dans son repos reste valable. Et ce qu'il faut redouter, c'est d'être resté en arrière. Donc la promesse ici, c'est cette promesse de repos. Dieu nous promet le repos en tant que chrétien. Et le texte va en parler longuement. Et dans le texte, c'est un petit peu difficile quand on le lit parce que le mot repos est utilisé avec différents sens. parce que les Juifs le comprenaient d'une certaine manière et avaient plusieurs points. Et donc quand on lit le texte, on voit repos, et nous on se dit c'est bon, c'est la même chose, mais ça nous aide de remarquer qu'il y a différentes choses. Il y a trois, voire quatre définitions qu'on peut voir ici, ou manières dont c'est utilisé dans ce texte. Il parle du repos qui était promis à Israël une fois qu'il serait rentré en terre promise. Ça, c'est une des utilisations du mot repos. Il parle du repos de Dieu dont il est parlé dans la Genèse, quand Dieu a créé le monde et qu'au septième jour, il s'est reposé. Et il y a aussi le repos que les chrétiens peuvent vivre, dont on peut faire l'expérience quand on fait confiance à Dieu pour le pardon de nos péchés, pour notre salut. Quand on fait confiance à Jésus, de dire « c'est bon, il a payé, je crois en lui et je suis accepté par Dieu, je suis en paix avec Dieu ». Et Dieu nous promet un repos qui est associé à ça, dans lequel on entre par la foi, où on se dit « j'ai pas à me soucier » de savoir si Dieu m'accepte ou pas. Donc ces idées, ces différentes idées du repos sont un peu mélangées, et les Juifs, eux, avaient peut-être une flexibilité mentale avec ces idées-là, ils comprennent les différentes idées très bien, et nous on va essayer de sortir ces choses dans la suite du texte. Mais donc il promet ce repos, et il nous dit qu'on ne doit pas ne pas entrer dans ce repos, qu'on doit ne pas être resté en arrière, redouter que l'un de vous ne semble être resté en arrière. L'idée va être reprise après, plus loin dans le texte, donc je ne vais pas m'attarder sur ce verset. Une remarque par rapport à ce verset, c'est cette idée de « redoutons donc que l'un de vous ne semble être resté en arrière ». C'est un verset qui exprime quelque chose qui parfois, je pense, nous dérange ou nous gêne dans l'Église, à savoir que on doit faire attention les uns aux autres. La foi chrétienne, c'est pas une foi où on dit, bon, bah, chacun dans son coin, moi je juge pas mes frères, je vais pas, eux ils font ce qu'ils veulent, je vais pas les condamner ou dire qu'ils font quelque chose qui est pas bien ou qui sont pas corrects, je m'occupe de moi. Ici, on a le sentiment, il faut, si l'un de vous semble être resté en arrière, faites attention. Il y a une idée de communauté ici. On a vu dans les passages précédents qu'il y avait l'idée qu'on devait s'encourager les uns les autres pour ne pas tomber, pour ne pas s'endurcir. Et le passage qui est souvent cité, peut-être le plus souvent à tort, dans Matthieu 7, dans les Béatitudes, à la fin du sermon sur la montagne, Le passage dans Matthieu 7, il est dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi tu as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Souvent, on prend ce verset et on dit « faut pas juger ». Donc voilà, on ne juge pas. Mais si vous remarquez dans le passage, il est dit qu'il faut d'abord enlever la poutre. Mais c'est pas non, occupe-toi seulement de ta poutre, c'est vous enlevez la poutre et après vous allez enlever la paille qui est dans l'œil de votre frère. Dans le passage dans Matthieu, il y a une question d'ordre, il y a une question de comment ça se passe, on s'examine, mais on aide aussi les autres. Et je trouve que ce verset et c'est les choses dans Hébreu, il y a une idée de on doit être ensemble. Les chrétiens juifs pouvaient se dire, mais on va aller, on va plus trop s'associer à l'Église parce que sinon on va être persécuté parce qu'on est vu comme chrétien. Donc je vais plus aller à l'Église et puis je vais rester chez moi. Je crois toujours en Jésus, mais je vais plus trop avec ces gens-là. Et là, l'auteur rappelle, il y a plein de choses dans ce livre qui nous disent, vous devez rester ensemble, c'est quelque chose, vous devez vous encourager, vous devez vous redouter que l'un ou l'autre ne tombe, vous devez ne pas négliger le fait de vous retrouver ensemble et de vous encourager. Donc, ce verset nous dit, on a vu l'exemple des Juifs dans le désert qui ont loupé l'occasion de rentrer en terre promise, dans ce repos qui leur était promis à eux. Nous avons une promesse et une possibilité pour rentrer dans le repos de la vie éternelle. Ayons peur de manquer cette occasion. Et c'est on a parlé du fait que c'était un problème de foi dans les versets précédents, où il est dit au verset 19 du chapitre 3, « Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. » Et le livre, la lettre aux Hébreux parle énormément de la foi, parle énormément de cette idée-là, et ça revient beaucoup. Donc on va beaucoup en parler dans les semaines à venir et aujourd'hui. Mais ici pour ce verset, c'est la foi. Alors c'est cette idée qu'on a foi en Dieu, on a foi en ce qu'il nous annonce, on croit ce qu'il nous annonce. Et cette foi va nous faire agir ou non. Et ici, pour donner un petit peu l'idée par rapport à ce premier verset, c'est un peu comme si on était dans un bateau et quelqu'un vient vous dire le bateau va couler, il faut qu'on se mette dans les radeaux, soyez prêts. On a tous le choix d'écouter cette personne et se dire, ce gars-là, ce qu'il dit, je le crois, je monte dans le bateau de sauvetage et le moment où le bateau coule, je suis prêt. On a aussi la liberté de dire, non, ce gars-là, j'y crois pas, je veux pas monter dans le truc, je reste dans mon machin. On peut se dire, je vais attendre, s'il se passe quelque chose, si j'entends un bruit, là, je me rue sur les bateaux. Mais l'idée, c'est qu'on a ce choix d'écouter ou de croire. Et le texte ici encourage les Juifs à dire non, croyez et entrez dans le repos maintenant. Ne soyez pas comme ces Juifs qui n'ont pas cru Dieu, qui n'ont pas écouté. Et le verset 2 confirme cette idée-là où il dit. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. C'est un contraste entre, peut-être on pourrait dire, écouter et entendre, ou quelque chose comme ça. Tout le monde peut entendre la même chose et réagir différemment. On peut, encore une fois, avec cet exemple, par exemple, du bateau ou de quelque chose... J'en sais rien, moi. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'an 2000. Vous vous souvenez de l'an 2000? On avait prédit l'apocalypse, qu'avec les ordinateurs, tout allait tomber en panne. Et pour la plupart d'entre nous, on est resté là, on a vécu comme d'habitude et on n'a pas changé notre comportement tellement. Mes parents ont des amis proches aux États-Unis. Qui ont acheté un terrain perdu dans la cambrousse avec ils avaient des radios, des serres, avec de quoi faire pousser, avec un bunker en dessous, avec ils étaient. Alors c'est un petit peu là, dans ce cas-là, c'est un petit peu ridicule, mais eux on a tous entendu le même message et on agit de manière différente par rapport à ce qu'on décide de croire. Certains dans le monde, parfois, quand vous présentez l'évangile, vont vous dire « Ah non, j'aimerais bien croire, mais j'y arrive pas. » Dire ça, c'est pas vrai. Ils ont entendu le message et ils décident de croire ou pas. On a une décision. On entend tous et on décide. Et on voit au verset 2, il parle de cette idée-là, que les Juifs ont entendu la bonne nouvelle, ont entendu les promesses de Dieu et ils ont décidé de ne pas croire et d'agir autrement. Et Dieu nous dit, redoutez de ne pas entrer dans le repos, croyez avec foi ce qui est annoncé et agissez, vivez en conséquence. Au verset 3, il dit « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Alors ce passage m'a semblé difficile à comprendre, difficile à décortiquer. On voit des idées, mais j'ai eu du mal à comprendre l'enchaînement des idées. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Alors, je crois que le texte ici, ce passage-là, est un petit peu à prendre dans le contexte, pas juste verset par verset. Encore une fois, nous, on a la division qui est artificielle, qui est venue après l'écriture de ces passages. Et il y a des choses qui sont citées, encore une fois, que les Juifs comprenaient. Il y a le psaume 95. Versets 7 à 11, il y a la Genèse 2:2, et tout ça s'imbrique avec la compréhension, encore une fois, de ces différentes idées de repos, le repos qui était la terre promise, le repos qui nous est promis, le repos de Dieu au septième jour de la création, et cette articulation est difficile, mais je pense que on peut le comprendre comme ça. L'idée, c'est que la promesse de repos, la paix de Dieu que Dieu veut nous donner, est valable et est disponible aujourd'hui. Et dans le texte, il dit les Israélites qui sortaient d'Égypte, eux ont raté le repos de la terre promise. Ils n'ont pas cru Dieu, ils n'ont pas eu la foi de lui faire confiance pour entrer en terre promise à cause des difficultés, et ils ont loupé l'occasion. Mais le repos de Dieu persiste. Pour les Israélites, d'après les commentateurs que j'ai lus pour essayer de m'aider avec ce passage, les Juifs remarquent que dans la Genèse, pour chaque jour de la création, il est dit, il y a eu le matin, il y a eu le soir, ce fut le tel jour. Et le septième jour, il parle de Dieu qui rentre dans son repos, et il n'est pas question de soir. Et l'idée, c'est que Dieu se repose, son repos, et il a créé, et il se repose. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, mais c'est que son repos dure. Et l'idée, c'est donc que le repos de Dieu persiste, il reste. Et il s'adresse donc à ces Juifs et il dit, regardez, Josué a amené le peuple en terre promise, donc dans ce repos de la terre promise, et dit, mais David, des centaines d'années plus tard, dit, entrez dans mon repos, n'endurcissez pas vos cœurs. vous êtes déjà en terre promise, vous avez déjà tout eu de ce repos de la terre promise qui était promis, mais donc il y a encore un repos auquel accéder, parce que David en parle des centaines d'années plus tard. Et donc il leur dit, Dieu il dit, aujourd'hui, entrez dans mon repos. Aujourd'hui c'est disponible, aujourd'hui c'est possible. Et donc ça s'adresse à vous, quand il leur parle, et ça s'adresse à nous. Aujourd'hui, entrons dans son repos. On en a parlé, il y a plein de types dans l'Ancien Testament de ce qu'est la vie chrétienne pour nous. Il y a quand on regarde, on peut faire des parallèles, et Pierre en a parlé. On peut dire que l'Égypte représente la vie dans le péché, la vie dans l'esclavage au péché, la vie quand on n'est pas sauvé, quand on ne croit pas en Jésus, une représentation. La sortie d'Égypte, ça peut être le salut, le fait d'être libéré du péché, d'être sauvé quand on croit en Jésus. La terre promise, c'est la vie chrétienne telle que Dieu le veut pour nous, nous le promet, avec la plénitude, avec les fruits de l'esprit, avec la paix, avec la joie, avec les choses qu'il veut que nous ayons. Mais comme la terre promise, ça n'est pas quelque chose d'automatique et d'acquis et de simple. Il y a des batailles, il y a des difficultés, mais c'est Dieu qui dirige et qui pourvoit. Et il y a cette idée du désert, et c'est un petit peu difficile à... On n'est pas sûr exactement ce que ça représente dans la vie chrétienne, ce qui pourrait avoir comme parallèle, mais l'idée est ce qui est communiqué ici dans les textes, c'est qu'il y a un peu un statut, un mauvais statut. On peut être chrétien, on peut être sauvé, et être quand même dans le désert, ne pas profiter de la vie chrétienne telle que Dieu l'entend. On peut être sauvé et ne pas en profiter, et être dans un entre-deux, d'être là, de ne pas vraiment faire confiance à Jésus, de douter un peu, et de louper la plénitude, tout ce qu'il veut nous donner. On peut voir aussi, on peut noter qu'il fait allusion à Josué, qui fait rentrer le peuple en terre promise. Et Josué, c'est le même mot que Jésus, en fait, c'est le mot en hébreu qui veut dire Jésus en grec. Donc on voit que Jésus, c'est celui qui veut nous mener dans la terre promise pour les chrétiens. On peut regarder aussi la similitude, dire que Moïse, il représente quoi dans l'Ancien Testament ? La loi. La loi ne peut pas nous faire rentrer en terre promise. C'est fou, hein, que Moïse n'a pas pu faire rentrer le peuple de Dieu en terre promise. Et de la même manière, Paul dit dans Romains que la loi ne peut pas nous faire rentrer dans la vie chrétienne telle que Dieu l'entend. Et donc il y a toutes ces idées, ces parallèles, et ça nous aide aussi à comprendre, mais nous voyons ce repos et nous pouvons y entrer. On peut se dire, mais bon, enfin, je suis sauvé, donc c'est bon, donc voilà. Je vais pas. Pourquoi est-ce que je dois faire des efforts pour arriver à quelque chose de plus? Je comprends pas. Et dire ça, c'est exprimer un manque de foi en Jésus. C'est dire, tu me dis, parce que la Bible, Dieu nous dit que ce repos, que cette vie chrétienne qu'il veut pour nous, cette vie en lui, c'est quelque chose de très très bon. C'est ce pourquoi nous avons été créés, et que nous pourquoi est-ce que nous le voudrions pas? on doit le vouloir, on doit avoir cette aspiration. On sent dans le texte, il y a une urgence et il y a aussi une idée. Alors on n'est pas, c'est ce mauvais exemple dans le désert. Je vous disais, dans la vie chrétienne, on n'est pas trop ce statut un peu alambiqué. On est sorti, on est libre, on est sauvé, mais on n'est pas en terre promise. On vit pas vraiment, on fait pas vraiment confiance à Dieu. Le texte ici et dans le reste du livre parle d'un danger. C'est pas juste. C'est pas juste l'idée que ah non je suis sauvé, c'est bon, mais je vais gérer moi, je vais pas vraiment faire confiance à Jésus, je vais pas vraiment forcément suivre ce qu'il me demande de faire ou obéir pleinement. Quand on dit ça, on se dit que. Enfin, vraiment, vis-à-vis de Jésus, c'est une insulte, quoi. Lui est venu pour nous donner l'accès à cette vie. Il est venu mourir pour que nous puissions avoir ce qu'il veut nous donner, pour avoir ces choses. Et nous, on lui dirait, non, c'est bon, je vais pas rentrer. Et le texte nous, ce danger, cette imminence, il y a l'idée qu'on peut, peut-être perdre son salut, on n'est pas très très clair sur exactement ce que ça sous-entend, mais il y a l'idée que faites attention de pas faire comme les Israélites qui sont pas rentrés dans le repos. C'est dangereux. C'est pas juste bon. C'est les Juifs dans le désert, ils ont tourné pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Il y a l'idée de mort, il y a l'idée de danger, il y a l'idée d'une urgence, de faites attention, rentrez dans le repos auquel Dieu nous donne accès. Et il y a tellement de choses à dire sur la foi et sur ce repos et sur aux Juifs aussi. Mais je crois que peut-être la question à nous poser, la chose à nous demander, c'est où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes dans le repos vis-à-vis de Dieu? Est-ce que vous acceptez que Jésus vous a sauvé et vous acceptez tel que vous êtes parce que vous croyez en lui? Ou est-ce que on retombe dans du ah j'ai encore fait une bêtise aujourd'hui, je vais essayer de faire mieux demain, Jésus. Est-ce qu'on lutte? Les Juifs messianiques de l'époque avaient cette tentation de retomber dans la loi, de retomber dans ce truc, de se dire bon bah on va se justifier par la loi. Et c'était quelque chose de lourd. C'était quelque chose où on est toujours dans le doute. Est-ce que je suis sauvé? Je sais pas. Peut-être. Est-ce que j'ai fait assez le bien? Est-ce que j'ai fait suffisamment de sacrifices? Est-ce que je sais même pas. C'est un peu des situations qui peuvent devenir rocambolesques. Je lisais dans un des commentaires les rabbins aujourd'hui, par exemple, il y a des lois. Il faut pas faire de feu le sabbat dans la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire le feu? Est-ce que si on démarre sa voiture, on allume un feu? Alors, d'après les rabbins juifs, oui, parce qu'il y a les bougies qui font exploser le gaz et c'est allumer un feu. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser sa voiture le jour du sabbat. Parce que, il faut pas acheter ou il faut pas payer? Donc, est-ce qu'on a le droit de payer avec une carte de débit? A priori, non, parce qu'on paye, il y a de l'argent. Mais alors, une carte de crédit, ça passe, parce que l'argent n'est pas débité le jour même. Et ce genre de choses, c'est pas du repos, c'est super stressant. Vous êtes tout le temps j'espère. Et dans d'autres religions, on retrouve cette idée aussi. Inch'Allah, on n'en sait rien, on espère, peut-être. C'est pas un repos, ça. C'est le doute permanent. Et Dieu a offert son fils pour qu'on ait l'assurance de dire c'est bon, je suis sauvé, c'est fait, je suis sauvé. Après, on veut tendre à plus, on veut être sanctifié, mais la sanctification n'est pas le fait d'être sauvé ou pas, on est sauvé, c'est fait, on est accepté. Vous pouvez vous tromper, faire des erreurs, tomber dans le péché, mais on est sauvé. Et est-ce que nous avons cette paix-là vis-à-vis de Dieu? Est-ce que quand vous venez à Dieu, vous venez à lui en disant ah, désolé, aujourd'hui ça n'a pas été génial. Est-ce que vous, Dieu ne veut pas que vous ayez cette relation-là. Dieu veut qu'on puisse venir et dire bonjour et être accepté. On est bon. Et donc si on n'est pas là-dedans, prions pour qu'on rentre dans le repos, pour qu'on croie vraiment la parole de Dieu qui nous dit qu'on est sauvé. C'est ça l'idée de rentrer dans ce repos par la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. C'est lire la Bible, entendre ce que Dieu dit et le croire et décider de dire oui, la Bible dit c'est vrai, je suis sauvé, je le crois. Et on le voit dans le verset 11, où il dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Là, il y a un contraste qui peut faire sourire, mais c'est cette idée de nous empresser, c'est un peu du travail. C'est, on nous dit « Bon, ben, travaillez pour le repos. » C'est un peu, on dit « Bon, je comprends pas, c'est un peu... » Mais l'ennemi va constamment nous attaquer, nous faire douter de Dieu, va constamment nous attaquer sur ce qu'on croit, va constamment remettre en question la Bible, qui doit faire notre assurance, et c'est du travail, c'est du boulot de constamment revenir à la parole, revenir aux promesses, revenir aux vérités, se rappeler qui est Dieu, se rappeler qui est Jésus, se rappeler ce qu'il a fait dans la Bible, ce qu'il a dit dans la Bible, ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a fait autour de nous. C'est un travail. Ce sont des choses qu'on doit activement faire. Ce passage, ce texte, moi je suis venu à ce texte en me disant les juifs, ouais, ils étaient, on voit le texte parfois comment c'est décrit, incrédule, il faut faire attention de ne pas avoir un mauvais cœur, on lit les passages, on voit Moïse qui est frustré, et on peut facilement regarder les juifs et se dire mais ouais, ils étaient vraiment mauvais quoi, et je pense pas que le texte. Alors Dieu parle fortement envers eux et c'est ce que Dieu a le droit de faire. Mais en regardant par exemple les Juifs de l'époque avec la persécution ou même dans nos vies, la vie chrétienne est difficile. c'est un fait et c'est pas quelque chose sur lequel nous devons nous attarder, mais imaginez-vous ces juifs dans le désert, par exemple. Ils sont en Égypte, ils sont dans l'esclavage, c'est horrible, et ils se disent, oh, on les libère. Alors ils ont stressé pendant tout le... Ils sont partis, ils ont cru que le pharaon allait venir les attraper, ils ont cru que ça allait leur tomber dessus, ils ont vu des miracles de Dieu, ils ont vu des choses incroyables. Et ils traversent le désert, ils se disent « c'est chouette, on va rentrer en terre promise, yes, Dieu nous a promis le pays où il y a le miel et le lait qui coulent, ah ça va être bon là, c'est génial ». Et là ils se pointent et ils voient des grandes murailles avec des géants. Franchement, c'est, vous comprenez qu'ils se disent « mais en fait c'est... » C'est pas ce à quoi on s'attendait. Et les juifs messianiques auxquels ce livre est écrit, ils se disaient peut-être on est sous l'empire romain, ça c'est dur, on est maltraité, on n'a pas vraiment toute liberté de faire ce qu'on veut dans le pays. On a Jésus qui vient, il nous sauve, on se dit c'est cool, on va rentrer dans la vie chrétienne, ça va être chouette. Et là, On voit aussi dans d'autres lettres de Paul qu'il devait rappeler aux gens que Jésus peut revenir à n'importe quel moment, mais qu'eux, ils se disaient peut-être dans leur tête, Jésus va revenir là, maintenant, il va installer son royaume, on va régner avec lui. Et là, au lieu de ça, on est pauvre, on est dans la difficulté, on voit pas les choses qui doivent arriver, et on voit que leurs attentes n'étaient pas en accord avec la réalité. Et pour nous, dans la vie chrétienne, on peut avoir aussi cette idée-là de se dire on va devenir chrétien, ça va être facile, on va plus avoir le péché, notre vie elle va aller bien. Il y a même des mouvements qui nous disent qu'on aura tout ce qu'on veut, qu'on aura l'argent, le succès, la gloire, qu'on sera tout d'un coup beau et jeune à nouveau. Et vous le savez aussi bien que moi, on vit la vie de tous les jours et c'est pas facile. On a nos mêmes luttes, on a des choses, on a même des géants, des choses qui avant peut-être étaient même pas un problème, des péchés qui nous posaient pas problème quand on n'était pas sauvé. Et une fois qu'on devient sauvé, ça devient comme des luttes qui sont en nous-mêmes, qui sont autour de nous, des gens, peut-être des amis, qui sont comme de l'opposition permanente. Et c'est dur. Et c'est pour ça que l'auteur ici dit il faut travailler pour se rappeler les vérités, les choses qu'on ne voit pas forcément. On voit la difficulté, on voit les géants, on voit les problèmes. Et parfois, si on ne se rappelle pas, non, il y a Dieu avec moi, Dieu il nous a sortis d'Égypte, Dieu il a fait un passage dans la mer Rouge pour presque 1 million de personnes. Et nous, on doit se rappeler les vérités de Dieu pour ne pas tomber en arrière et pour rentrer dans ce repos. Et c'est du travail, personnellement, individuellement, de revenir à la parole de Dieu régulièrement, de connaître la parole. C'est pour ça qu'on étudie la parole. On va voir le verset qui suit. C'est pour ça que ça parle de la parole, de la manière dont ça parle. On a besoin de ces choses. Un auteur que j'aime bien lire, qui n'a rien de chrétien, qui est un auteur anglophone, qui écrit des choses par rapport au marketing, au leadership, aux entreprises, au fait d'entreprendre, etc. Et il parle beaucoup de l'idée qu'on se raconte des histoires, il y a une certaine culture, des normes et des choses que l'on se raconte à soi-même, et ce sont les choses qui nous motivent, qui font qu'on agit d'une manière ou d'une autre. Des exemples, par exemple, ça peut être de vous dire, j'en sais rien, vous êtes, on est français, donc on aime le camembert c'est vrai. Et parfois, on pense qu'on est dans qu'on est vide, on est vraiment des êtres subjectifs et influencés par les choses autour de nous. Et c'est peut-être dans votre famille, il y a des choses que vous, dans votre famille, dans notre famille, on vit et on agit de telle ou telle manière. Nous, dans notre famille, on est fidèles les uns aux autres, on s'aide, on est bon. Et donc, pour les enfants, on grandit avec ça et ça nous imprègne et ça nous change la manière dont on se comporte, la manière dont on réagit. On se raconte des histoires. Si on se raconte d'autres histoires, un autre exemple. Si, par exemple, en ce moment, un gros débat, c'est les vaccins. Les vaccins, il y a une grande contestation de savoir si c'est bon ou pas, si ça met en danger les enfants ou pas, etc. Mais en dessous, il y a des choses qu'on se raconte qui font qu'on va décider ou non notre manière de réagir vis-à-vis de ça. Et l'une des manières, c'est de se raconter, de dire les industries pharmaceutiques, c'est des égoïstes, méchants, capitalistes qui veulent de l'argent. Donc, ils vendent des produits qui sont dégueulasses et qui vont nous tuer de toute manière parce que eux, ça leur est égal. Donc, les vaccins doivent être mauvais, donc je vais pas les prendre. Et alors après, on peut penser autrement, de dire non, quand même, il y a des maladies graves qui ont été enlevées grâce à des vaccins, peut-être pas forcément les mêmes, mais etc., etc. Mon objectif, c'est pas de rentrer dans ce débat-là, mais c'est de vous montrer comment, à partir de suppositions et d'idées, on agit et on fait des choses. Et la Bible, c'est un livre qui est plein de vérités qui nous incite à agir d'une certaine manière. La Bible, c'est quasiment toujours, quand vous lisez la Bible, vous pouvez trouver Dieu dit ça ou Dieu est comme ça, donc faites ça. Telle chose est vraie, donc vous devriez faire ça, vous devriez agir comme ça. Et l'idée, c'est que c'est du travail de se rappeler ces histoires, de revenir à la parole de Dieu et de connaître ces histoires, parce que quand vous êtes dans la vie chrétienne et que vous dites non, finalement ça vaut pas le coup, je vois pas Dieu agir, je vois pas répondre à mes prières, etc., vous pouvez vous détourner ou peut-être moins avoir ce repos que Dieu veut pour vous, cette plénitude que Dieu veut pour vous. Et la parole de Dieu, c'est là où on va aller et on va dire non, je lis et la Bible dit Dieu est fidèle, Dieu est là, là où deux ou trois sont réunis, il est là. Est-ce que vous venez le dimanche matin et vous dites Dieu est là, Dieu, il y a sa parole, il va me parler ce matin. On vient, on peut être là et ne pas. La Bible, j'étais à une conférence il y a quelques semaines avec Pierre et il y a un pasteur qui nous parlait du fait que la Bible nous dit de croire les choses qui sont invisibles. Regardez aux choses qui sont invisibles, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez regarder des choses qui sont invisibles? Mais l'idée, c'est de considérer des vérités par la foi qui sont vraies, qui sont là. Et la Bible nous dit qu'il y a une réalité spirituelle qui est en parallèle avec notre monde, qui est aussi vraie et aussi présente que notre réalité physique, celle que nous ressentons. Et de nous rappeler les vérités et de nous rappeler ces choses, ça va nous fortifier dans la foi, ça va nous garder là où nous devons être, ça va nous aider à vivre, ça va nous aider à croire Dieu. Et le livre hébreu, ça continue avec toutes ces idées sur la foi. On va y revenir, on va en reparler. Mais par exemple, dans Hébreu 11:1, il est dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Et dans Hébreu 12, les versets 1 à 2, nous aussi, donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc on doit travailler et en même temps on doit s'en remettre à Jésus, on doit lui faire confiance, on voit que c'est lui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Dans Romains 10:17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ces raisons-là et ces choses-là qu'il est question de la parole de Dieu au verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors on pourrait passer tout un dimanche ou deux sur la parole de Dieu, mais l'idée c'est que la parole de Dieu permet de diagnostiquer notre état spirituel, si on est dans le repos ou pas, comment on s'en sort, et nous en avons besoin. La parole de Dieu peut disséquer jusqu'à nos motivations, jusqu'à des choses que même nous ne voyons pas ou ne pouvons pas séparer. C'est tellement important. C'est le verset 13 qui finit « Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » On termine un peu sur une note qui fait presque peur. On se dit « Mais c'est... on doit redouter, on doit faire attention, on doit rentrer dans le repos. » Et là, on a un peu l'impression qu'il va... Il va venir nous juger, qu'on va être épié. Et si on s'arrête à ce verset-là, on pourrait dire est-ce que je vais y arriver ? Le mot utilisé ici pour nu et découvert est intéressant parce qu'il y a un peu un débat sur la signification exacte. Il pense que ça peut vouloir dire immobilisé, comme si vous êtes dans une lutte, vous êtes en train de lutter avec quelqu'un et il vous immobilise, on est coincé. Et il y a une autre possibilité pour la traduction, il y a l'idée qu'on est coincé. Ils avaient une méthode pour quand ils avaient certaines personnes qui étaient jugées, où ils leur mettaient un couteau ici, ils les attachaient, ils mettaient un couteau ici pour que les gens soient obligés de garder la tête comme ça et de regarder. Et donc l'idée ici, c'est que on va être obligé de regarder Dieu dans les yeux, quoi. Dieu, il va venir et il va nous regarder dans les yeux et on va pas pouvoir s'y échapper, on va pas pouvoir regarder ailleurs. Il va nous avoir dans le viseur et il va voir ce qui se passe dans nos cœurs, dans ce qui se passe dans nos vies. Et on a besoin donc de s'attarder sur la parole de Dieu. Et juste un encouragement, si vous avez peut-être du mal à lire, à étudier par vous-même, à prendre le temps dans la semaine, alors peut-être vous lisez, peut-être vous avez du mal à en tirer plus que ça. Vous pouvez, alors il y a des études bibliques, il y a des choses disponibles. On n'a pas d'études bibliques en ce moment, mais par exemple, vous savez très bien ce qu'on va étudier la semaine prochaine. C'est la suite du texte. Lisez le texte cette semaine et venez la semaine prochaine avec vos questions, avec vos trucs, avec le cœur prêt à entendre et à écouter. Donnez de l'importance à la parole de Dieu, vous en avez besoin pour diagnostiquer votre cœur, votre état spirituel où vous en êtes. Et on va voir, ce sera la suite de l'étude, mais la résolution et la réponse par rapport à ça, je ne veux pas vous laisser sur une note où on se dit je vais être Dieu va disséquer jusqu'au fond de moi-même et va voir tout ce qui ne va pas. Non, il est dit juste après que Christ est notre grand prêtre et que nous pouvons venir avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. On a ce grand prêtre qui voit quand même, qui nous connaît, qui a été tenté comme nous et qui va pouvoir nous aider quand même et pas nous condamner. Il veut que nous ayons le repos et l'assurance que nous sommes sauvés, que nous sommes acceptés. Il veut que nous puissions entrer dans ce repos. Si vous avez le sentiment de ne pas être dedans, étudiez la parole et cherchez Jésus et croyez, entrez dans le repos. Et pour s'il y en a parmi nous qui ne croient pas, décidez de croire. Jésus est mort pour nous et vous pouvez être sauvés. On peut avoir cette assurance en lui. Ce repos, c'est pas quelque chose où on entre et puis on fait rien, mais c'est l'idée qu'une fois qu'on y est, on répond à Jésus. C'est l'idée de quelqu'un a fait quelque chose de tellement bien pour nous qu'on veut faire quelque chose en retour. Par exemple, dans la louange. Quand on loue le dimanche matin, l'idée devrait être pas de dire je vais louer pour que Dieu me considère bien cette semaine, pour qu'il se dise c'est bon, il a chanté suffisamment fort le dimanche matin, je vais lui accorder 2-3 petits bonbons. C'est que Dieu a tellement fait pour nous qu'on veut lui chanter, qu'on veut l'adorer, le remercier. Et c'est la même chose avec les choses dans la vie chrétienne. On veut pas obéir pour obtenir quelque chose, on veut obéir à la parole parce qu'on est sauvé déjà et qu'on a cette assurance et que c'est fini et qu'on dise à Dieu, mais merci quoi, merci, qu'est-ce que je peux faire en retour ? Et cette idée de réponse m'a marqué tellement de fois dans ma vie. Je pense que les motivations pour mes actions, les motivations de mon cœur dans ma vie chrétienne sont... C'est sournois, hein, c'est difficile parfois à détecter, mais quand on laisse la parole de Dieu nous examiner, on va pouvoir voir ces mauvaises motivations et ces choses, ou la peur. Et Dieu veut que nous ayons le repos en son salut et que ce que nous faisons pour lui, comment nous le servons, ce soit une réponse qui soit quelque chose de facile et d'agréable, parce que nous savons que nous le faisons juste pour le remercier et que c'est pas ça qui conditionne notre relation avec lui. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que c'est fait. Merci parce que si nous le croyons, Seigneur, si nous nous en remettons à toi pour notre salut, c'est fini. Et nous n'avons pas à nous inquiéter, Seigneur. Quoi qu'il nous arrive, Seigneur, quoi que le monde nous fasse, si nous sommes amenés à quitter ce monde demain ou dans 30 ans, Seigneur, tu m'as sauvé. Et aide-moi et aide-nous à rentrer dans ce repos aujourd'hui et à rester dans ce repos, à nous rappeler tes vérités, à nous rappeler qui tu es, à nous rappeler... combien tu es bon et à nous remplir de ton esprit, de cette envie de te remercier par nos vies, par nos actions, Seigneur. Nous voulons simplement te dire merci, Seigneur. Amen.